Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vers un équilibre digital de la Haute École Léonard de Vinci. Depuis nos studios, je vous accompagne dans cet épisode sur l'impact environnemental de nos usages numériques. Nous allons essayer avec mon invité de vous donner des pistes de solutions afin d'adopter de bons gestes et de bonnes pratiques pour un usage raisonné et durable des outils numériques qui nous entourent. Installez-vous confortablement et plongez-vous dans le monde passionnant de l'équilibre digital. Aujourd'hui, nous rencontrons Jules Delcon de l'Institut belge du numérique responsable. Bonjour Jules.
Bonjour.
Jules, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices ?
Eh bien donc, je m'appelle Jules, j'ai 28 ans, je travaille depuis bientôt 3 ans à l'Institut belge numérique responsable, qu'on pourra appeler ISIT, ce sera plus simple. J'ai fait des études en économie gestion, j'ai fait un master en développement durable pour les organisations, et je me suis intéressé dans mon mémoire à la sobriété numérique, aux impacts environnementaux du numérique, et donc aujourd'hui c'est ma spécialité.
Merci Jules. Aujourd'hui, on va parler dans ce podcast des usages du numérique. Est-ce que très brièvement, tu pourrais nous expliquer ce qu'on entend par usage?
Usage numérique, ça veut dire que je vais utiliser des équipements numériques pour écouter de la musique avec Spotify, regarder une vidéo sur YouTube, commander même manger avec Uber Eats, commander un taxi, travailler aussi forcément, envoyer des mails, écrire des documents, écrire un livre. Dès qu'on utilise des équipements numériques, dès qu'on est sur du digital, dès que je stocke des données par exemple dans le cloud, bah on est sur des usages numériques.
Le fait que l'on utilise au quotidien des outils numériques, que ce soit chez nous ou au travail, cela a un impact sur l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Pourquoi c'est un impact ? Parce qu'en fait, il faut mettre en place toute une infrastructure numérique, tout un écosystème numérique. Je vais prendre l'exemple de la vidéo YouTube. Si moi, je veux regarder une vidéo YouTube, bah déjà, il me faut falloir un terminal. Soit ça peut être un smartphone, ça peut être un laptop. Ça, c'est le premier élément de l'écosystème, c'est les équipements utilisateurs. Ensuite, j'ai les équipements réseau et le data center. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma vidéo, elle est stockée quelque part. Donc, elle est sûrement stockée dans un data center, peut-être donc de chez Google. Et je dois aussi accéder à cette donnée, à ce data center. Et donc, il me faut une connexion. Ça va être une connexion peut-être 4G, 5G même, ou une connexion Wi-Fi. Et donc, ça veut dire que de nouveau, si j'ai pas un data center qui est relié avec des câbles, ben, je n'accède pas à ma vidéo. Et donc, aujourd'hui, tout usage numérique nécessite en fait cet écosystème dans son ensemble. Si j'ai pas d'équipement, je peux pas regarder de vidéo. Si la vidéo n'est pas stockée sur un data center, ça marche pas. Et puis si j'ai pas de connexion internet, ça marche pas non plus.
En termes de chiffres, de part, quelle est finalement l'empreinte environnementale du numérique aujourd'hui et comment calcule-t-on l'impact des usages dans cette empreinte ?
Le numérique aujourd'hui, c'est environ 4 à 5% des gaz à effet de serre dans le monde. Environ 1 20e ou 1 25e de l'empreinte carbone de l'humain, c'est le numérique. C'est-à-dire que l'écosystème, il est quand même conséquent, il n'est pas tout petit. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui est assez conséquent. Donc dans les études les plus récentes, on annonce qu'on arrive vers 7 à 8% d'ici 2025. Donc c'est clairement, en fait, on est en pleine digitalisation, on est clairement en croissance. On a de plus en plus d'usages numériques, on a de plus en plus d'équipements numériques. Et donc avant, bah, par exemple, on n'avait pas de monde connecté. Maintenant, on voit qu'il y a une monde connecté, mais c'est des objets qu'on utilise, qui consomment des données, qui créent de la donnée, qui sont stockées. Ces données sont stockées, elles sont envoyées. Et donc il y a de plus en plus de digitalisation, il y a de plus en plus d'usages. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une hausse des usages. Clairement une hausse des usages, on fait de plus en plus de choses. Il faut aussi se rendre compte que les volumes échangés, dans les volumes de données échangées, ils sont de plus en plus conséquents. Ça veut dire qu'avant, on avait des vidéos de faible qualité. Aujourd'hui, on peut regarder des vidéos en 1080p, en Full HD, en 4K. Donc pareil, de nouveau, il faut stocker plus de données. Donc ce qu'on remarque par exemple sur les data centers, c'est que la consommation électrique des data centers, elle augmente et qu'on voit de plus en plus de data centers un peu partout dans le monde. Pour revenir à ta question, comment on calcule les impacts des usages ? Et bien en fait, justement, on calcule l'impact de l'infrastructure qui a été mise en place.
Donc, si je comprends bien, l'infrastructure existe et après, je fais le calcul.
C'est ça. Donc, je calcule l'impact de la mise en place de mon écosystème. Donc, j'ai besoin d'un serveur, j'ai besoin d'équipement réseau, j'ai besoin d'équipement utilisateur. Je vais les produire et je vais les alimenter aussi en énergie. Et tout ça fait que, du coup, j'ai une approximation des impacts et puis je peux approximer mes usages sur base des équipements. Et ça, c'est très important. On calcule ça sur des moyennes. Ça veut dire qu'en règle générale, on va approximer, je ne sais pas moi, l'empreinte carbone d'un email sur une durée de vie moyenne. Aujourd'hui, en moyenne, un laptop, on le garde 4 ans. Un smartphone, c'est 2 ans et demi. Et donc, quand on regarde un petit peu les différents scénarios, on va voir que, par exemple, on estime que l'impact carbone d'un email, il va dépendre de plein de choses. Le destinataire, est-ce qu'il y a une pièce jointe, à combien de personnes, quel type de connexion, depuis quel type d'appareil. Et puis ensuite, on se rend compte que c'est calculé sur une moyenne, mais que si j'augmente la durée de vie de mes équipements, je réduis l'impact de mes usages. Donc c'est un petit peu compliqué.
Justement, dans cette série de podcasts, on parle d'un cycle de vie, on parle de production, d'utilisation, de fin de vie. Quelle est la part des usages du numérique dans cet impact environnemental ?
Alors, il faut faire la distinction entre les équipements utilisateurs et le reste de l'écosystème. Si on parle des équipements utilisateurs, que nous, on possède, avec lesquels nous, on interagit, on se rend compte que la majeure partie des impacts vient de la production. Si je prends un laptop, si je prends un smartphone, si je prends une montre connectée, dans les moyennes d'utilisation qu'on leur connaît, on est autour de 70 à 80 des impacts qui sont dus à la fabrication. Et on va dire qu'il y a environ 15%, c'est l'usage, et puis un tout petit peu pour le transport. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en moyenne, la plupart du temps, on ne les garde pas assez longtemps, et la phase d'utilisation, elle est relativement minime vis-à-vis des impacts. Mais si vous gardez votre laptop très 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 longtemps, bah, vu que vous l'alimentez, vous continuez à l'alimenter en énergie au fil des années, les proportions changent, les ordres de grandeur changent. Par contre, sur les équipements réseau et sur les data centers, là c'est l'inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on observe que le réseau il est mutualisé et on observe que les data centers ils sont extrêmement optimisés pour des raisons de coût. Et donc qu'est-ce qu'on observe sur les équipements réseau et sur les data centers, donc sur les serveurs qu'on a dans les centres informatiques, ben là, on remarque que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est principalement la phase d'utilisation qui a le plus d'impact et un peu moins la production. Alors attention, il faut bien se rendre compte qu'on est sur des ordres de grandeur différents, mais je vais prendre l'exemple d'un laptop. Alors j'avais regardé une étude sur un laptop, et donc là, on le garde 4 ans. Et donc on voyait dans l'étude que 77,6% des impacts de l'impact carbone, c'était la production. Parce qu'on le gardait 4 ans, et on avait une consommation électrique annuelle d'environ 29 kWh. Et puis on regarde la même chose, dans la même marque, dans les mêmes années, on regarde par contre cette fois-ci un serveur. Un serveur, c'est jamais qu'un gros ordinateur, en fait. Il y a un peu plus de RAM, il y a un peu plus de stockage, mais c'est plus ou moins la même chose. Et en fait, ben, l'impact de la production, il était vraiment énorme, c'était beaucoup plus, c'était l'équivalent d'une 5-6 laptops environ, au niveau des composantes. Par contre, ce qu'on remarque, c'est là, c'était 83%, c'est l'usage. Parce que, en fait, à l'année, en moyenne, le serveur, il consomme 50 fois plus d'électricité. Parce qu'il tourne tout le temps, parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie pour toutes ses composantes. Et donc, on remarque que c'est pas qu'il est moins impactant à la production, il est plus impactant à la production. Mais l'impact de l'utilisation du serveur est énorme. Et donc, on se rend pas compte, mais là, aujourd'hui, si vous avez un smartphone à côté de vous et que votre 4G est allumé, on est constamment en train d'être connecté à une antenne mobile. Cette antenne mobile est constamment en train d'être liée à un backbone, donc des fils, des câbles partout, qui vont partout dans le monde, même dans l'eau. C'est impressionnant. Et ça veut dire que là, peut-être, pendant que toi et moi on parle, il y a mon smartphone qui est peut-être en train de faire une mise à jour. Peut-être que Facebook est déjà en train de charger les vidéos que je vais voir au moment où je vais ouvrir mon smartphone. Donc, il y a des échanges d'informations qui sont constants. Si vous avez votre Wi-Fi qui est allumé quand vous marchez dans la rue, votre smartphone est constamment en train de voir s'il n'y a pas un Wi-Fi qui connaît, sur lequel il va pouvoir se connecter. Et donc tout ça, ces équipements, ils sont en train d'être utilisés. On estime aujourd'hui que le numérique, c'est 10% de la consommation électrique dans le monde.
Face à ces constats, Jules, quelle est finalement la bonne approche à adopter ?
Donc, de nouveau, alors on rappelle les impacts. L'idée, c'est de se dire que de base, ben, c'est la production des équipements qui a le plus d'impact. Donc, honnêtement, je préfère quand même quelqu'un qui a des équipements, qui les garde le plus longtemps possible, qui les répare et qui s'enfile 5 heures de Netflix par jour, que quelqu'un qui devient amiche au niveau des usages, rien du tout, pas de Spotify, pas de vidéo, pas de mail, mais qui change de smartphone tous les 6 mois. La bonne approche, c'est je réduis l'impact de mes équipements et de la production de mes équipements, et puis pour les usages, je fais attention à ce que ça réponde à un besoin et j'évite le gaspillage. Je vais prendre un exemple sur le gaspillage. Je vais au boulot, j'écoute de la musique en roulant en vélo, et donc j'ai mon Bluetooth qui est activé et j'ai ma géolocalisation. Quand j'arrive au boulot, est-ce que je désactive le Bluetooth ou pas ? Mais ça va avoir un impact sur ma batterie. Si je ne l'ai pas fait, si je n'ai pas désactivé la géolocalisation et le Bluetooth, bah peut-être qu'à la fin de la journée, ma batterie elle est un peu morte. Donc déjà, bah là, je vais devoir charger mon smartphone. Bon, bah, c'est un peu dommage. Un autre exemple sur la vidéo, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent YouTube et Twitch, hein, donc c'est des plateformes de streaming. Quand je vais sur YouTube, avec mon application, avec mon smartphone, YouTube est fait pour me donner la meilleure expérience utilisateur. Ça veut dire quoi ? C'est que ça veut dire en fonction de ma bande passante, si j'ai une bonne connexion Internet, il va charger la meilleure qualité possible. Ça veut dire que là, mon smartphone, si je l'allume et que je vais sur YouTube et que je regarde une vidéo, il va me mettre de la Full HD parce que j'ai une bonne connexion Internet. La question, c'est de se dire, mais est-ce qu'on voit vraiment la différence entre du 1080p et du 720p sur un écran de smartphone ? Bah non. Ah, mais donc la 4K, ça sert à rien. Bah si, la 4K, ça sert à quelque chose. Si vous avez une salle avec 100 personnes et que l'écran, il est à 30 mètres de vous, oui, la 4K, elle sert à quelque chose. Au cinéma, la 4K, elle sert à quelque chose. La 4K dans votre salon, avec votre télé qui est à 3 mètres de vous, elle sert pas à grand chose, la 4K à cet endroit-là. Donc, de nouveau, l'idée, c'est pas d'opposer la high-tech et la low-tech. L'idée, c'est de parler de wise-tech. L'idée, c'est de dire, je vais faire un usage approprié des technologies là où c'est intéressant.
Merci Jules. Pour résumer, quelles seraient les attitudes à adopter pour avoir un impact environnemental significatif lors de mon utilisation quotidienne du numérique ?
Au niveau des usages, la première chose, c'est on va réfléchir à tous les usages qui sont énergivores. Donc dès qu'il y a une dépense d'énergie qui est conséquente, bah, on va essayer de limiter ces dépenses d'énergie. Désactiver les fonctionnalités qui sont énergivores comme la 4G, le Bluetooth, le Wi-Fi, enfin, ou même la géolocalisation quand c'est pas nécessaire. Et ensuite, le deuxième, ça va vraiment être sur la vidéo. On remarque aujourd'hui que 80% des données qui transitent, des flux de données, c'est de la vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est des contenus qui sont extrêmement lourds. Hein. Les vidéos, c'est des images par seconde. Donc, quand vous avez du 60 FPS, c'est 60 images par seconde. Et donc, aujourd'hui, si on a une infrastructure réseau qui est au stade où elle est aujourd'hui, ça a été poussé dans les dernières années par les consommations de vidéos qu'on a. Clairement, le fait qu'on regarde des vidéos un petit peu partout, un petit peu tout le temps, bah, ça a un impact. Alors, il faut bien se rendre compte qu'entre 720p et 1080p, on fait x2 en termes du volume de données. Si demain, je décide de mettre toutes les vidéos de YouTube en 4K, il va me falloir une capacité réseau beaucoup plus conséquente, il va me falloir plus de data center pour stocker des contenus qui sont plus lourds, et il me faudra plus de puissance de calcul parce que je vais devoir traiter des documents qui sont plus volumineux. Et donc on se rend compte qu'en fait, nos usages vont avoir un impact direct sur l'infrastructure physique, les équipements et leur renouvellement. Pourquoi ? Parce que si j'ai des technologies qui sont extrêmement gourmandes, mais en fait, je vais créer peut-être un ralentissement sur ma machine. Si demain, j'ai toutes les vidéos de YouTube de nouveau qui sont en 4K, mais en fait, mon smartphone, peut-être qu'il va être plus lent en fait, à gérer des gros volumes de données. Peut-être que mon processeur ou ma RAM, elle suit plus en fait. Et donc, à chaque fois qu'on utilise des technologies, il faut qu'on se rende compte aussi que certaines innovations technologiques amènent de l'obsolescence au niveau des équipements.
On entend beaucoup de choses en ce moment sur l'impact environnemental de l'IA. Est-ce que tu pourrais nous en parler brièvement ?
Toutes les technologies ne sont pas foncièrement et intrinsèquement mauvaises ou bonnes. C'est toujours ce qu'on en fait. De nouveau, on n'est pas là pour dire qu'il faut arrêter de regarder des vidéos. Si vous regardez des vidéos pour un devoir de maths et que c'est super intéressant parce que c'est super pédagogique, c'est génial, regardez cette vidéo. Si on est dans une réunion, par exemple, je suis un webinaire ou je suis un cours à distance, on est 100 dans la réunion Teams en visio. Personne ne va voir ma tête. La miniature, elle est toute petite, elle n'est même pas affichée. Je peux couper ma caméra. Là, j'ai une dépense inutile de données, en fait. Je vais consommer trop de données. On peut couper nos caméras. Mais si toi et moi, là, maintenant, on a un call par visio et qu'on a besoin de se voir et qu'on a besoin de se parler, c'est plus intéressant de garder la caméra. Donc, de nouveau, il y a toujours une question de besoin. Et pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On a l'intelligence artificielle qui est utilisé pour de la recherche, pour de la médecine, pour de l'optimisation, par exemple, de la mobilité. Il y a plein de solutions qu'on va trouver avec l'intelligence artificielle qui vont être géniales, et celles-là, il faut les garder. Il faut bien faire la part des choses. Par contre, on a certaines utilisations de l'intelligence artificielle qui ne sont pas forcément utiles. Quelqu'un qui fait des recherches Google avec ChatGPT, il ne se rend pas compte qu'il s'est beaucoup moins optimisé, que Google va dépenser beaucoup moins d'énergie que ChatGPT pour le faire. Parce que ChatGPT, il est là pour des problèmes complexes. Je peux prendre l'exemple d'une amie dont je ne citerai pas le nom. On était en train de jouer au loup-garou, on a voulu faire une variante pour que quelqu'un ne soit pas tout le temps citoyen, enfin villageois, et donc elle a demandé à ChatGPT de lui faire une variante du jeu. Est-ce que ça répondait à un besoin ou est-ce que c'était plutôt une envie ? Et donc là, le problème, c'est qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais la technologie, elle nous amène énormément de confort. Et jusqu'où ça va aller, en fait ? On n'est pas du tout résilient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on choisit la facilité. Et c'est ça le gros problème avec les technologies, et notamment l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous amène beaucoup de facilité, mais que dans le même temps, on est en train de payer le prix.
Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre de grandeur par rapport à cet impact de l'IA sur l'environnement ?
Alors, on a une super étude qui est sortie de Data for Good, ici en juillet 2023, où on nous apprend que, par exemple, pour ChatGPT-3, l'entraînement du modèle, il a eu pas mal d'impact. Okay, c'est assez conséquent d'entraîner une IA, il faut beaucoup d'énergie, il faut faire tourner le modèle, il faut capter beaucoup de données, il faut améliorer l'algorithme, etc. Et donc, historiquement, c'était l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle qui avait le plus d'impact. Parce que je dépense beaucoup d'énergie à entraîner mon modèle, et puis j'ai un ou deux chercheurs qui vont l'utiliser. Et ils vont faire une requête, une demande, de temps en temps. Le problème qu'on observe maintenant avec les intelligences artificielles, et par exemple les intelligences artificielles génératives comme DALL-E ou ChatGPT-3, c'est qu'en fait, le nombre d'utilisateurs, il a explosé. Et donc en fait, maintenant, c'est plus l'impact de l'entraînement qui est le plus important, c'est l'impact de l'utilisation. Ça ne veut pas dire que l'entraînement, il est moindre, il est toujours aussi conséquent, mais en fait, ces technologies sont rendues disponibles à tellement de personnes, et tellement de personnes les utilisent pour tout et n'importe quoi, qu'au final, on a une consommation qui explose. Et donc, par exemple, sur ChatGPT-3, l'entraînement du modèle, alors on estimait que c'était 552 tonnes d'équivalent CO2, ok, je pose ce chiffre-là, mais en fait, le premier mois d'utilisation en janvier 2023, on a fait x18. Donc, l'impact de l'entraînement de ChatGPT-3 qui est conséquent, on a fait x18 de cet impact en un mois d'utilisation. Donc aujourd'hui, le problème des intelligences artificielles, c'est que le fait qu'elles soient tout grand public fait qu'elles sont utilisées. Et malheureusement, l'impact suit.
Pour terminer, Jules, est-ce qu'il y a seulement des questions environnementales lorsqu'on parle des usages du numérique ? Est-ce que dans la manière de concevoir, de penser ces outils dans leurs usages, on peut aussi parler de questions liées au bien-être ?
Ah, clairement. Aujourd'hui, quand on regarde les équipements, ils ne sont pas toujours conçus pour durer très longtemps. Donc, on nous pousse un petit peu au consumérisme et à les remplacer trop souvent. Et ça, c'est la pub qui est très très forte là-dessus, ou l'obsolescence aussi, malheureusement. Et on peut, par exemple, parler d'obsolescence logicielle. Les logiciels sont faits pour que ce soit très compliqué de les maintenir longtemps. Et puis, on a plein d'enjeux aussi au niveau de, par exemple, la dépendance aux écrans. L'idée, en fait, c'est sur la dépendance aux écrans et sur le temps d'écran, l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas faire de temps d'écran. Il faut avoir conscience de son temps d'écran. Et donc là, on va parler par exemple de la conception des services numériques. Hein, si on peut prendre par exemple les réseaux sociaux. Instagram, l'algorithme est conçu pour nous faire passer un maximum de temps dessus. Pourquoi ? Parce qu'au plus je passe de temps sur Instagram, au plus Meta, qui détient Instagram, peut vendre de la pub. Et donc eux, ils gagnent de l'argent comme ça. Mais moi, j'avais pas prévu de regarder des vidéos pendant 4 heures sur Instagram.
Et ça, je peux m'en rendre compte en tant qu'utilisateur ?
Honnêtement, sans le mesurer, c'est impossible parce qu'en fait, c'est conçu pour pas qu'on s'en rende compte. Même moi, je n'ai pas la capacité de le faire sans être aidé. Sur Android comme sur Apple, donc sur iOS, dans les paramètres, il y a un truc qui s'appelle bien-être numérique qui permet de monitorer son temps d'écran. Et là, de nouveau, je vais donner un exemple. C'est très intéressant, par exemple, de mettre une limite d'une heure sur Instagram parce qu'au moins, on voit à quelle vitesse on y arrive. C'est pas du tout intéressant de mettre une limite sur Spotify. C'est pas du tout intéressant de mettre une limite, par exemple, sur Waze ou Google Maps. Si vous vous déplacez en voiture, que vous êtes sur l'autoroute et qu'après 2 heures, Waze se coupe en disant maximum 2 heures, le minuteur s'arrête, je coupe l'application, mais vous êtes sur l'autoroute, vous avez plus votre navigation. Vous deviez bientôt sortir, vous savez pas où c'est, vous êtes en train d'être sur votre GSM au volant à 120 sur l'autoroute. C'est pas une bonne idée. Donc, le monitoring du temps d'écran, c'est pour prendre le contrôle sur ses usages numériques. C'est pas pour arrêter le numérique. Mais on va avoir des enjeux de bien-être. Il y a des enjeux d'addiction, il y a des enjeux de temps d'écran, il y a des enjeux sur le sommeil. Il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait une corrélation positive entre le temps passé sur les réseaux sociaux et des symptômes de stress, dépression, anxiété. Au plus je passe du temps, au plus je vais potentiellement développer ces symptômes. Donc il y a des enjeux, il y a des volets humains d'accessibilité, d'inclusion, de bien-être.
Donc c'est lié, c'est-à-dire que c'est paramétré pour que je passe de plus en plus de temps sur ces applications. Pour contrer ça, Jules, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'utilisateur ?
Monitorer son temps d'écran, prendre conscience qu'effectivement, si je reste toute ma journée sur mon smartphone à regarder plein de vidéos, ma batterie, elle se vide super vite. Donc peut-être que mon smartphone, il va mourir un peu plus tôt. Et puis, je vais tomber sur plein de pubs qui vont peut-être m'influencer à acheter le dernier iPhone. Et puis, je vais aussi peut-être pas faire de sport alors qu'avant, j'aurais été faire du sport. Donc, il y a des enjeux de santé sur le fait qu'on passe trop de temps avachi sur Netflix, par exemple. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut arrêter de regarder Netflix. L'idée, c'est juste de dire, si vous faites que ça, peut-être qu'il y a un problème.
Par rapport à cette prise de conscience et à l'importance d'être informé en tant que citoyen, où est-ce que je peux trouver une information fiable sur les usages du numérique si je veux en savoir plus après ce podcast ?
Il y a un truc qui s'appelle calculatrice numérique responsable qui permet en fait de dire moi j'ai un laptop que je garde 4 ans, j'ai un smartphone que j'ai depuis 2 ans, j'envoie environ X mails par semaine avec des pièces jointes, je fais environ X heures de streaming, je stocke environ X gigaoctets de données sur le cloud et on vous donne un petit fromage avec vos ordres de grandeur, vos impacts. Et on donne ça avec les fameuses 2 tonnes de l'accord de Paris. On peut aussi rajouter des déplacements. Comme ça, on peut voir, entre le fait de me déplacer au boulot et utiliser le numérique ou le fait de rester à la maison, si vous allez au boulot en vélo ou en voiture, vous allez voir que la proportion du numérique va être plus ou moins grande. Donc, c'est assez sympa. Et alors, il y a aussi, de nouveau, sur le site de l'ADEME, l'Agence de la transition environnementale en France, il y a quelque chose qui s'appelle DataGir. C'est un mot valise entre data et agir. Et là, vous avez un convertisseur CO2. Et donc, je peux convertir 1 heure de streaming vidéo avec 1 kilo de carottes, avec la production d'un laptop neuf, avec 1 000 km en voiture. Et ça donne des ordres de grandeur. Et là, effectivement, on va se rendre compte que c'est pas grave d'envoyer des mails. Peut-être que je dois d'abord essayer d'éviter d'acheter un smartphone.
Et pour finir, Jules, quel est le rôle de l'ISIT dans la formation et l'information aux usages raisonnés et durables du numérique ?
Mais nous, du coup, on est là pour de nouveau expliquer aux organisations quel va être l'impact du numérique dans son ensemble. Et puis là, il y a 3 grands volets. Les équipements, les usages et les services, et ça fait partie d'un tout. Donc si je prends par exemple une banque, eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une application bancaire pour leurs clients, ils ont des services qui tournent non-stop, donc ils ont une grosse infrastructure numérique avec des services, mais ils ont aussi des services numériques pour leurs employés. Par exemple, les employés, ils envoient tous des emails, ils font tous des visios. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut mettre en place une charte de bonnes pratiques ? Et donc on voit que dans d'autres organisations avec lesquelles on travaille, si on fait un call à nous deux, on garde la caméra. Si on fait un webinaire et qu'on est sans dans le call, la personne qui parle va éventuellement activer sa caméra, mais pour les autres, on va couper la caméra. Pour les emails, on va avoir plein de bonnes pratiques. On va éviter, par exemple, les pièces jointes. On va mettre des hyperliens vers la donnée qui est centralisée sur le SharePoint, sur le OneDrive, donc sur le stockage de l'entreprise, parce que la donnée, elle est déjà stockée quelque part. Donc si je commence à la mettre dans les mails, en fait, je la réplique et puis elle fait des petits et on se retrouve à 10, 15, 20, 30, 50 copies. C'est un petit peu du gaspillage. Et donc, on va vraiment les aider sur les usages à dire quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. Et c'est de nouveau, c'est pas... On ne vous demande pas de retourner dans votre cave, de retourner à l'âge de pierre. C'est vraiment dire, vous avez un besoin, on va répondre à ce besoin, mais on va faire des choix dans nos usages qui vont être différents et qui vont avoir différents impacts.
Merci Jules d'avoir participé à cet épisode du podcast Vers un équilibre digital proposé par la cellule Transition et le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir exploré avec nous des solutions pour tendre à l'équilibre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.